Armelle est une très belle femme. D'ailleurs, Armelle aime la beauté. Elle l'a d'abord aimée par son extériorité. Et puis, la vie lui a permis de se retourner vers sa facette plus cachée, l'intériorité. Armelle, je l'ai rencontrée en même temps que je passais pour la première fois le pas de la porte d'un lieu qui m'appelait depuis quelques mois. La bien nommée maison spirituelle. Armelle en est la charismatique gardienne. Passer le cap de cet endroit est déjà une aventure en soi. Encore faut-il se mettre en quête du grand oublié de notre modernité, la spiritualité. Vous le découvrirez dans ce troisième épisode de Créez-moi sur parole. Armelle est une créatrice, une inspiratrice et une initiatrice. Elle nous partage sa vision du féminin et du masculin à travers son vécu avec grande clarté, sans artifice ni édulcorant. Alors je suis ravie de vous proposer aujourd'hui la voix singulière d'Armelle. Je suis honorée de faire de la place à sa manière dépoussiérée d'articuler spiritualité et créativité. Et cela, tout en beauté. Alors c'est parti, décrochez vos ceintures, ouvrez grand votre cœur et vous écoutez. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Armelle.
Bonjour Nathalie, ça va bien ?
Merci de nous accueillir dans ce merveilleux endroit qu'est la maison spirituelle. Alors la première question pour toi, elle est un peu triple. Qui es-tu ? Que crées-tu ? Et quel est le lien entre qui tu es et ce que tu crées ?
Alors, tu me répéteras les questions si je les ai oubliées. Je vais répondre à la première. Qui je suis ? Alors, bon, comme ça, là, je suis Armelle Marie. Marie, c'est mon nom de famille. J'ai 56 ans. Je suis mariée avec un homme qui s'appelle Jérôme depuis 37 ans. J'ai deux enfants adultes aujourd'hui. Louise, 30 ans. Pierre, 28 ans. Mon métier ou mes métiers, parce que j'ai fait comme deux vies en une pour l'instant, hein, mais c'est pas fini. On a vécu en famille pendant 20 ans sur Paris. Et là, j'avais un métier, j'étais styliste, graphiste, designer d'objets. Donc, je travaillais dans le monde de la déco et de la mode pendant 20 ans. Une société d'un côté et en indépendant pour diverses sociétés. Voilà, je faisais du beau extérieur, on va dire. C'est ça qui me réjouissait. J'ai créé, donc là, j'étais vraiment, voilà, j'ai créé pendant 20 ans, puisqu'on parle de créer. J'ai créé pendant 20 ans des produits de déco et de mode. J'ai pas eu l'impression d'ailleurs de travailler du tout pendant ces 20 ans, tellement c'était riche de plein de choses. Et j'avais cœur de faire du beau, qui fasse du bien. Beau, bon, bien, pour moi, ça va ensemble. Et puis, il y a 15 ans, on est arrivé à Nantes. Voilà, il y a eu tout un moment de vie de recherche personnelle, mais peut-être que je le développerai un petit peu plus loin. Et il y a maintenant 3-4 ans, j'ai créé un lieu sur Nantes qui s'appelle la Maison Spirituelle. Un lieu pour s'occuper de son intériorité et mettre de la beauté dans son intériorité. Donc je suis passée un peu, là je le vois avec le recul, hein, sur ces deux moments, de la beauté extérieure à la beauté intérieure, en tout cas de tendre vers ça. Hein. Je ne dis pas qu'elle existe, mais c'est... C'est la continuité.
Merci pour ce beau déjà. Quel est le lien ? Tu l'as un peu touché du coup déjà juste avant. Quel est le lien alors entre ce que tu es et ce que tu crées ?
Ben pour moi c'est exactement, pour moi c'est complètement lié. J'aime bien le mot créer, c'est se créer. C'est-à-dire qu'il y a la notion... Enfin, moi, aujourd'hui, en tout cas, la maison spirituelle n'est que l'aboutissement, et c'est pas figé, hein, ça bougera aussi dans le futur, n'est que l'aboutissement de mon évolution personnelle. Et ce que j'ai fait avant, pendant 20 ans, dans la création mode, déco, c'était l'expression de moi... avec ce que je sentais de moi, voilà. Donc pour moi, les deux sont complètement liés. je ne réfléchis même pas à avoir un plan de carrière ou un plan de création, un plan, ça se fait comme ça. C'est, je laisse faire ce grand processus de création. Je suis ce que je crée. Ça me représente.
Ah, c'est un bon résumé de ce podcast.
Déjà, c'est déjà le résumé.
Non, on va revenir sur toute cette histoire, car il y a énormément de richesses, moi je le sais. Alors on va tenter de la transmettre. Du coup, comment est née ton envie de créer la maison spirituelle? Comment as-tu fait pour identifier que c'était ça que tu voulais? J'imagine que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain.
Je ne sais même pas si j'ai identifié. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, en effet, mais c'est... Quand je suis arrivée à Nantes, est-ce que je raconte ça là? Est-ce que ça a un sens de le raconter là par rapport à la maison spirituelle, puisque pour moi, la création... Redis la question.
Ouais. Comment est née ton envie de créer la maison spirituelle?
Alors, je ne sais même pas si c'était... Elle est venue toute seule, hein. C'est elle qui m'a appelé la maison spirituelle, hein. C'était comme une évidence. Donc c'est pas une histoire de volonté, une volonté de créer, moi. C'est simplement, ça a pris cette forme-là. C'est-à-dire que je savais, en arrivant 20 ans de Paris, on est arrivé sur Nantes. Nantes, j'ai fait comme un burn-out, il a fallu que je travaille sur moi. J'étais dans une impasse. Bref, donc j'ai fait une thérapie pendant 10 ans, où là j'ai redécouvert qui j'étais, et voilà, j'ai repris le chemin de ma vie. Et de moribonde, je suis arrivée à passionner par ce chemin-là de vie, parce que de connaissance de soi, où la notion de la spiritualité est rentrée, et puis élargie encore les données de la vie. Et je me suis dit, mais c'est génial, il faut en parler au plus grand nombre. Il faut l'ouvrir, c'est pas possible qu'on confonde encore spiritualité et religion. Religion qui, quand même... Il y a des très beaux textes, mais c'est aussi au niveau des dogmes, c'est terrible, quoi. C'est vraiment enfermant. Donc on a été tous horrifiés par la religion. Donc voilà, donc il fallait, pour moi c'était évident qu'il fallait faire quelque chose. Mais quelle forme, quoi, comment, aucune idée. Il y avait toujours un lieu, j'ai quelque chose au fond de moi qui me disait... Un lieu, il faut un lieu, j'ai besoin d'un lieu. Alors peut-être par protection, j'ai toujours eu besoin d'avoir une maison, quelque chose qui me protège, certainement. Pour moi, la maison est importante, le foyer. Mais au-delà de ça, voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un lieu pour ça. Et petit à petit, c'est arrivé comme ça. On va dire ça comme ça. Ça a pris cette forme-là.
Alors justement, tu parles de spiritualité. Et d'ailleurs, tu es l'une des personnes qui m'a permis, et je t'en remercie, qui m'a autorisé moi-même à mettre ce mot, malheureusement si chargé, comme tu disais juste avant, car en effet, il y a une vraie confusion et peur vis-à-vis du dogme religieux qui a pesé si lourd sur nous. Qu'est-ce que tu signifies, Armel, par spiritualité?
Alors pour moi, la spiritualité, c'est... Alors pour moi, je suis intimement persuadée que nous sommes tous des êtres spirituels et que nous vivons une expérience terrestre et pas l'inverse. Hein. Donc pour moi, la spiritualité, c'est... comment je pourrais dire ça ? C'est un champ... C'est notre vraie vie. C'est un champ de C'est pas facile, hein, elle n'est pas facile la question, hein, à l'exprimer. C'est comme s'il y avait notre monde dans lequel on vit, et puis un autre monde impalpable, on ne le voit pas avec, mais beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, où notre vision est élargie, prend du recul, un monde unifié, en paix. tout peut être... tout est faisable, tout est créable, tout est créable, ça se dit ? Non, ça se dit pas du tout. Mais on peut inventer même des mots, on peut les créer, les mots. Voilà. Et ce monde-là existe, il est accessible par le cœur. Il passe par notre intériorité. On ouvre notre cœur, donc ça se fait pas comme ça. Tiens, j'ouvre mon cœur. Non, pas du tout. C'est un travail de déconditionnement. On est tous malades d'amour. Hein. On a tous eu des amours, des amours pas bien placés, etc. Et ben, il faut retrouver la voie de l'amour pur. Voilà, c'est trouvable. Et par cette voie du cœur, on arrive à un espace qui s'ouvre, un monde où tout est unifié et en paix, parce que tout est relié. Et c'est là où, quand on arrive à ce niveau-là, qui est donc c'est le mouvement de la vie, c'est l'intelligence de la vie qui fait que la vie fonctionne sur toutes ses formes. Et on se retrouve là, à ce niveau-là, à être en lien et être toutes ces formes. Donc on n'a plus de dualité, on n'a plus de division, on n'a plus noir, blanc, ça n'existe plus. C'est juste un monde d'amour et de paix. C'est quand même top, hein ?
Ouais, c'est assez merveilleux. Et moi, je vois ça comme un accès, quelque part, à l'invisible, au ciel. Alors, comment toi, tu rapportes ça sur Terre ? Et comment toi, cette spiritualité que tu as développée, t'a permis de créer ?
Quand je me relie à ce monde spirituel, on va dire, donc c'est vraiment... je me sens vraiment ici, je me sens dans mon incarnation, je me sens bien sur la terre, et en même temps, s'ouvrir au ciel. Donc s'ouvrir, c'est vraiment un terme, parce que ça demande à l'intérieur de soi d'ouvrir d'être réceptive, en confiance et réceptive. C'est notre part féminine d'ailleurs qui peut le permettre, ça. Et de se laisser habiter par ça, par tout. L'énergie de vie qui existe partout, hein. On le sent de la terre, mais elle vient aussi du ciel, elle vient de partout. On est tous l'énergie existe partout. Et bien donc cet amour qui arrive, parce que c'est de l'amour en barre, hein, se prendre un shoot d'amour ou une douche d'amour, ça remplit. Ça remplit, ça redresse, et on n'a qu'une envie quand on est là, ben c'est de redonner. C'est de redistribuer. Alors, je ne suis pas Mère Teresa, hein, mais ça se concrétise par de la création, par... voilà. C'est une énergie de vie qui ne demande qu'à reprendre d'autres formes. Donc, c'est même le processus de création de la vie. C'est le souffle de la vie qui pénètre et qu'on peut remettre partout. Et d'ailleurs, on doit le remettre partout. Et ça se fait comme ça. C'est même pas... Puisqu'on n'est pas au niveau du cœur, on est dans l'intelligence du cœur, on n'est plus dans l'ego ou dans le mental qui dissèque, etc. Donc, c'est pas du tout les mêmes notions de vie, ça n'a rien à voir. Donc, c'est comme un process qui se fait tout seul, on reçoit, on redonne. C'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter parce que ça n'a pas de sens de l'arrêter que pour soi, puisqu'on peut en avoir autant qu'on veut. Donc, on le redonne. Enfin, il passe par nous et il passe dans la vie. Donc, puisque je suis incarnée, je suis donc là, j'en fais quelque chose, ici. Donc, ça prend plein de formes diverses et variées. Il n'y a pas une forme de création plus qu'une autre.
C'est intéressant, cette idée de « je reçois, donc je peux donner ».
Oui, parce que c'est dans ce sens-là que je ne peux pas donner si je n'ai rien à donner.
Et alors, je fais le lien, puisqu'on en parlait juste avant l'interview, justement, ouais. Et tu le disais tout à l'heure, c'est notre féminin qui nous permet de recevoir. Alors pour les personnes qui seraient moins familières avec ces notions de féminin et de masculin, il ne faut pas les confondre avec le genre masculin et féminin. J'imagine que tu reviendras là-dessus. Que veux-tu dire donc par ici féminin et masculin ? Et comment est-ce que ce féminin et ce masculin s'articulent ?
Alors pour moi, la part féminine, c'est la part de soi... la plus sensible, celle qui sait justement se mettre dans une écoute, dans une réceptivité, Ça peut demander de s'isoler. C'est la partie de soi qui arrive à se centrer, à ne pas être dans un tourbillon de vie. C'est vraiment c'est soi avec soi. Là, il faut se rapprocher de son centre, se mettre en silence et commencer à ouvrir ses oreilles un peu plus loin que la musique d'à côté ou la parole. Ouvrir ce qu'on appelle l'œil intérieur, c'est-à-dire une espèce de vision plus élargie. Voilà. La capacité de faire ça, tout le monde l'a, mais c'est par sa part féminine, donc par sa part sensible, celle qui sait entendre au-delà de nos organes, vues, oreilles, voilà. On peut le faire. Et c'est par ces qualités-là du féminin que l'on peut recevoir toutes les infos que l'invisible peut nous donner, puisque c'est sur ces plans-là que ça se passe. Hein, c'est pas une radio FM qui va... Voilà. Mais ça demande d'arrêter le mental, ça demande de rentrer dans le cœur, d'épurer son cœur, enfin voilà. Donc toutes ces capacités immenses sont de l'ordre du féminin. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se développe. C'est un langage qu'on n'est pas du tout, qu'on a oublié, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, complètement méconnu, mais qu'il faut retrouver pour accéder à plus haut. C'est vraiment le féminin qui fait l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Ces qualités-là, en tout cas, qui permettent l'amour, pareil, l'amour, la réceptivité de l'amour, c'est par le cœur et c'est par le féminin, c'est par toute cette ouverture-là. Et le masculin, en soi, homme et femme, comme ce féminin existe chez tout le monde, hein, y a pas que les femmes qui ont du féminin, on pourrait l'appeler le ying ou le yang, voilà, on peut leur donner d'autres noms, mais ça n'a rien à voir avec le genre. Eh bien, la partie ensuite masculine va recevoir cet élan, cette énergie d'amour, etc. Et lui, c'est la part justement masculine qui va œuvrer à l'horizontale, on va dire, dans le monde, et qui va dire « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Donc, quand on est bien calé dans sa part masculine, on a un cœur ouvert, on est généreux, on donne, on fait, on agit pour le bien, et non pas, on crée, bien sûr, et on agit pour le bien de soi et des autres, et non pas pour sa gueule et son ego et pour soi. Parce qu'il n'y a plus à avoir peur de rien du tout. On donne.
Alors, pour illustrer concrètement, peut-être, comment est-ce que ça se manifeste pour toi, Armel ? Aurais-tu un exemple concret à nous donner pour illustrer comment ton féminin accueille et ton masculin œuvre sur ce qui a été reçu ?
Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un appel. Alors un appel, il n'y a pas quelqu'un là qui me fait « ouh ». Non, intérieurement, j'ai senti, alors moi je ressens, parce que il y a des gens qui ont des images intérieures, des gens qui entendent des voix, hein, ils ne font pas l'asile pour ça, et il y a des gens, moi c'est des perceptions, je ne peux pas vous dire comment ça marche, mais moi ça, c'est comme un appel, il fallait que j'aille dans un lieu, à la Sainte-Baume, qui se trouve donc près de Aix, entre Aix et Toulon. Et je ne sais pas pourquoi je devais aller là-bas, mais je devais aller là-bas. J'étais en train de lire un livre sur Marie-Madeleine, mais donc, qui était la première disciple du Christ, parce que j'aime beaucoup le message christique et je trouve que c'est quelque chose pour le monde d'aujourd'hui. On n'a pas bien compris ce qu'il voulait nous dire il y a 2000 ans et il venait là pour le féminin et justement on l'en empêchait. Bref, il est toujours valable son message. Donc je suis très sensible à tout ça et Marie-Madeleine représentait justement la part féminine, non pas parce qu'elle était une femme mais parce qu'elle avait intégré cette part-là intuitive qui sait, qui sent, qui connaît déjà cette intelligence du cœur, elle n'était pas dans le mental et elle avait aussi déployé son masculin. Donc elle m'appelait, cette femme-là, morte il y a 2000 ans. J'ai dit, Marie-Madeleine, j'arrive. Je prends ma voiture, mes bagages, et voilà. Et je suis donc partie là-bas. Et j'y ai passé 5 jours dans un petit hôtel, l'hôtellerie de Sainte-Baume, pour ceux qui veulent y aller, qui est au pied. Et j'ai passé 5 jours entre me promener, méditer au pied de la grotte, qui est malheureusement fermée, mais peu importe, Marie-Madeleine était là. On a papoté toutes les deux. Et j'ai écrit des choses sur un livre dont j'ai fait une synthèse. C'est ça que ça me disait de faire. Je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi je le faisais. Et je suis rentrée, donc maintenant il y a une semaine, 15 jours à peine, je ne sais plus. Et ce livre, en fin de compte, il a servi. Des gens l'ont lu, et je sais que ça a touché leur âme. Il y a quelque chose qui va leur servir profondément pour une compréhension de plus large. Voilà. Ouais. Donc, voilà, j'ai entendu l'appel, je l'ai suivi, j'étais dans mon féminin, j'entendais, j'ai fait confiance, j'avais foi en ça, pour moi c'était une confiance totale, on me dit quelque chose qui est très important là, et dans mon masculin, j'ai pris ma voiture, mon truc, mon livre, mon ordinateur, j'ai fait la route, j'ai fait ce qu'il fallait, pour y être, voilà. Voilà un peu comment peut s'articuler le féminin et le masculin en moi.
C'est un bel exemple. Alors moi, j'aime aussi les contre-exemples. En aurais-tu un, peut-être de ta vie d'avant, pour nous montrer ce que ça donne quand il n'y a justement pas cette harmonie, cet échange entre ces deux énergies du féminin et du masculin?
Oui, alors moi, ma vie d'avant, eh bien j'étais un mec. Un sale mec, même. Alors justement, ça se voyait pas parce que j'étais très jolie, mignonne, jeune à l'époque. J'ai 56 ans aujourd'hui, mais j'étais plus jeune. Mais à l'intérieur de moi, j'avais intégré un sale gars, vraiment. Donc j'étais, en fin de compte, intérieurement, ça se traduisait que j'étais dans une rigidité, j'étais dans un masculin très dur. Sans concession, le cœur fermé. Je n'avais pas accès à mon féminin, en fin de compte. Voilà. Alors ça, pourquoi, comment je suis arrivée là? Bon, tout simplement, un conditionnement familial, culturel. Ah, qui fait que je me suis dit, il n'y a que ça qui vaut, quoi. Il faut que je développe un super masculin batailleur. Il faut que je sois... Sinon, on va m'écraser la trombinette. Et surtout, développe pas ton féminin, parce que regarde, les pauvres femmes, c'est pas tellement tendance, cette histoire, pas beaucoup de valeur là-dedans, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie, ou que tu vas te faire respecter dans la vie, ou qu'on va peut-être t'admirer et t'aimer. Donc, balance tout sur le masculin. Et comme ce que j'avais autour de moi, c'est des exemples de masculin un peu rigides, j'ai bien intégré, et j'ai fait la même chose, puisque les enfants fonctionne par mimétisme, donc voilà, j'ai intégré ça. Ce qui fait que j'ai travaillé, mais j'étais très efficace, c'est sûr, hein, j'ai bossé, en bossant dans un monde de créativité, j'en ai fait du business, j'ai fait, voilà, ça a bien fonctionné pendant 20 ans, sauf que pendant 20 ans, je me suis rigidifié au fur et à mesure, mon cœur s'est fermé, ma partie féminine était complètement étouffée. C'était complètement inconscient, hein, mais j'étais très féminine à l'extérieur. Donc un leurre de féminin, le beau dehors, toujours le beau dehors, mais il n'y avait rien à l'intérieur.
Comment tu l'as su qu'il n'y avait rien à l'intérieur?
Eh bien, quand j'y étais, je ne sentais pas que j'avais rien à l'intérieur. J'étais persuadée que j'avais plein de capacités, de possibilités, de richesses. Mais ça, c'était mon orgueil, mon ego qui me disait « Oui, tu fais ci, tu fais ça, tu es donc forcément bien, riche, etc. » de tout ça. Non, c'est quand, à un moment, on est parti de Paris pour habiter à Nantes. Nantes, c'était la ville de mon enfance que j'avais bien fui pendant 20 ans. Et donc, en arrivant ici, je me suis littéralement effondrée, comme si ma bulle de protection construite à Paris, plouf, voilà. Et donc là, j'ai pu voir l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire que j'étais au bord de la mort et du suicide quand j'ai vu la pauvre partie de moi. J'étais dans une impasse de rigidité. Je me suis aperçue là, quand même, tout le massacre de mon féminin. Donc ça m'a fait un tilt. Je me suis aperçue, je me suis pris des claques et des claques de désillusion. Et puis avec un état des lieux qui était quand même catastrophique dans la femme que j'étais, la mère que j'étais. J'avais quand même deux adolescents à l'époque. Mes enfants avaient 15 et 13 ans. Et je me suis aperçue que toutes ces dimensions du féminin, mère, femme, épouse, amante, je ne les avais pas bien intégrées. Et puis sans parler même de la dimension intérieure du féminin que je ne connaissais absolument pas encore à cette époque, qui m'ont été à force d'aller, de faire confiance à cette partie-là, que j'ai développée pas à pas.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu as développé pas à pas ? Parce que clairement, ça donne envie quand on t'entend. Je me doute bien qu'il n'y a pas de baguette magique ou de recette toute prête, mais par quoi est-ce que tu as commencé et qu'est-ce qui est selon toi important dans ce cheminement, de réconciliation avec son féminin?
Alors j'ai commencé par 10 ans de thérapie. le minimum syndical. Non, j'ai commencé, ma vie a été quand même jalonnée de plein d'infos. Par exemple, à 32 ans, j'ai perdu... Enfin, ma mère est morte, elle avait 56 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Étrange. Et ça m'a fait un coup, bien sûr, cette perte, surtout qu'elle était très brusque. Enfin, elle avait un cancer, mais c'était caché, etc. Bref, et elle est morte très, très rapidement. Donc, ça a été vraiment une claque. Et une partie de moi, j'avais l'impression d'être morte avec ma mère, hein, en tant que fille, puisque la fille s'identifie à sa mère. Et moi, j'étais... ma mère était un modèle pour moi, mais dans son dynamisme intérieur, j'ai un peu le même, quoi. Donc, c'était quelque chose elle mourait, mon dynamisme intérieur mourait avec elle. Et à la fois... J'avais une bouffée de joie, vraiment. J'avais même presque honte d'avoir ce sentiment-là, mais de libération. C'est-à-dire, ma mère meurt, je vais enfin pouvoir faire quelque chose de ma vie. Comme si, elle vivante, je ne pouvais pas accéder à moi, dans mon féminin. Et en partant, elle me donnait les moyens de ça. Donc je la remercie pour ça d'ailleurs, hein. J'ai beaucoup d'amour aujourd'hui pour ma mère retrouvée, mais en tout cas voilà. Donc ça a été un déclic, là où je me suis aperçue que j'avais une problématique grave dans mon féminin. Voilà, et puis ce que j'ai raconté tout à l'heure, le burn-out, le machin, voilà, je me suis dit à un moment, quand je suis arrivée à Nantes avec ce burn-out, je me suis dit, j'étais dans un tel état que c'était ou la mort ou la folie. J'étais quand même rendue très loin. Donc j'ai vu que j'avais besoin d'aide, je ne pouvais pas y arriver toute seule. Donc j'ai trouvé quelqu'un, le hasard qui n'est pas du tout un hasard de la vie, il m'a fait, mais ça je ne savais pas, mais j'ai quand même activé mon féminin là, alors que je pensais en être complètement dénuée. Je vais vous raconter comment j'ai trouvé ma thérapeute. Donc quand j'allais pas bien du tout sur Nantes, je errais comme une âme en peine, ce qu'a de dire, dans les rues de Nantes. Et il y avait un seul petit endroit, un petit parc au bout de la rue Kléber, derrière le Muséum d'Histoire Naturelle, où là je sentais je me sentais mieux quand j'allais dans ce petit parc. J'étais bien là, rue Kléber et là. Et le reste était noir. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un, une aide. J'ai pris les bottins, les pages jaunes, parce que je ne connaissais plus personne à Nantes. Et je savais qu'il fallait que je fasse un travail des profondeurs. Ce n'était pas de la surface, ce n'était pas... Voilà. J'avais besoin d'un retour de parole, que quelqu'un m'aide, donc pas une psychanalyse. J'avais besoin d'une thérapie à tendance analytique pour aller vraiment en profondeur, mais j'avais besoin de dialogue. J'avais besoin d'une mère, donc je voulais une thérapeute féminine. Je sentais le manque cruel de ma mère, donc d'une guidance maternelle. Voilà. Et avec tout ça, un seul nom sur la liste des thérapeutes de Nantes, Michel-Marie Gaillard. Je nomme son nom. Hein. Vous la chercherez si vous avez... Oui. Et Michel, parce que c'était masculin. Marie, dans son prénom, c'était féminin. Gaillard, j'avais 40 ans, il fallait y aller, il n'y avait plus de temps à perdre. Allez, on y va, Gaillard, Gaillard. Elle habitait, son cabinet était rue Kléber à l'époque. Incroyable. Là où je errais, etc. Et donc, c'était elle. Et donc, c'est avec elle que j'ai fait cette thérapie pendant 10 ans. Et ça a été un bonheur, parce que c'est une femme... Et puis, c'est une femme qui avait 19 ans de plus que moi. Donc, elle était proche de la soixantaine. Donc, elle faisait office de mère. Elle a amené plein d'outils. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, qu'elle a ouvert la spiritualité comme une aide précieuse pour aller faire ce chemin de descente intérieure, pour aller... enlever ces voiles de conditionnement, de malheur qui sont... Tout est nettoyable, tout est enlevable. Voilà. Donc c'est comme ça que petit à petit, pas à pas, j'ai fait ce travail. C'est un travail, c'est un chemin. C'est le chemin de la vie, de sortir de ces conditionnements, parce qu'on est tous conditionnés en tant qu'humains. Le fait même de naître, on est du corps d'une mère, on vient d'une histoire familiale, donc on est conditionné. Déjà dans celle-ci, on est conditionné dans une société, on est conditionné dans le monde, voilà. On rentre dans des cases et on n'a pas pour but de rester dans les cases. Il faut élargir, on est plus que ça. Je le redis par rapport à tout à l'heure, on est des êtres spirituels et on a un champ de vision et d'action bien plus large que ce qu'on pense avoir. Donc, et puis le plus important, c'est qu'on soit en amour. Donc il faut libérer le cœur, il faut libérer les désamours, tout ça. Mais c'est un travail petit à petit, pas à pas. Et puis ce travail ne se fait, c'est un process de soi avec soi. Il faut aller à l'intérieur de soi, aller chercher. Il faut aller travailler à l'intérieur de soi avec tout l'amour qu'on peut pour soi-même, jamais sans juger, pour s'encourager, pour presque fabriquer son propre parent à l'intérieur. Et petit à petit aller dans ses profondeurs pour y... chercher derrière ce qu'on pensait de la merdasse, un trésor. Un trésor qui nous construit, qu'on ramène à la surface en conscience. Et c'est une qualité et qui va être là. Donc on remplit petit à petit en osant aller travailler ses malheurs. On en sort ses trésors. Et puis après, on a un petit panier avec plein plein de trésors.
Merci pour le partage de ton parcours. Alors la question qui me vient par rapport à tout ça, c'est quel est le risque selon toi de ne pas mener ce travail, ce cheminement vers soi, vers sa spiritualité ?
Bah, tout simplement, on n'est pas entier. On est des bouts de soi, on est diminué. Il nous manque l'essentiel. C'est comme si on était des enfants. On n'a pas une conscience pleine de ce qu'est la vie, on est à côté de ses richesses, de ses potentiels. Pour moi, on est dans l'humanité quand on a accédé à ce, et qu'on développe sa spiritualité, parce que c'est ça qui nous ouvre notre potentiel. Si on n'accède pas à ça, on reste enfermé dans un monde étriqué. Dans nos peurs, dans nos doutes, dans notre mental petit qui ne fonctionne qu'en boucle, soit avec soi, on est collé aux autres, on ne peut pas accéder à ce mouvement du vivant qui ne demande d'ailleurs, c'est le mouvement, hein, ça c'est jamais figé, ça bouge perpétuellement, ça demande à bouger en permanence. On ne peut pas figer les choses, parce que si on fige les choses, la vie s'arrête. Je l'ai expérimenté, hein, en voulant figer, contrôler. Je me suis retrouvée proche de la mort. Je l'ai vraiment vu. Mort ou folie, ça amène à ça. Vraiment. Donc nous sommes spirituels, il faut le reconnaître. Hein. C'est comme ça, on n'y peut rien. Par contre, on a tout intérêt à aller regarder ce que c'est en nous et d'essayer de développer ça. C'est quand même que du plus. Et le monde autour de nous s'en sentira bien mieux. C'est quand même mieux de vivre dans l'amour et la paix que dans la guerre et la mort.
Alors j'allais y venir, justement, puisque tu l'as mentionné à plusieurs reprises. Quelle est la place de la spiritualité et de la créativité dans le monde dit d'après ? Et qu'est-ce qui nous manque en fait ? Qu'est-ce qui nous manque selon toi aujourd'hui ? Bon, parce qu'il faut quand même bien le dire, hein, c'est le bordel.
Ah, c'est gros bordel. Là, c'est même, on est en train. Enfin, la société pète un câble. On est proche de la folie là quand on voit avec le Covid, etc. Enfin, on va même pas rentrer dans le détail, mais on sent que c'est pétage de câble à tout niveau. Bah, le monde d'après, c'est quoi ? Mais c'est nous qui le choisissons, le monde d'aujourd'hui puis le monde d'après. Hein. Il va se construire. C'est nous qui avons construit ce monde-là aussi. Hein. On en est juste. Et puis on le construit tous les jours. Hein. Donc qu'est-ce qu'on choisit pour le monde d'après ? Pour moi, c'est évident que le monde d'après, si on ne change pas de niveau de compréhension de la vie, si on ne s'élève pas un tout petit chouïa, et même un gros chouïa, il faudrait quand même, parce que si on ne passe pas justement à cette conscience spirituelle, c'est-à-dire que simplement une conscience plus élevée pour accéder à une autre vision du vivant qui nous permettra de changer nos comportements, notre façon de faire, hein, et ben là, on reste dans la folie, quoi. On reste dans cette espèce de monde affreux où c'est chacun pour sa pomme, où on essaye de... Enfin, ce qui existe, c'est-à-dire c'est moche, quoi. Un monde de division. Et il n'y a rien à tirer de sympa d'un monde de division. C'est des petites paix ponctuelles hein, qui peuvent se créer, des petites choses. Mais non, ça demande un raz-de-marée. Mais alors, c'est pas une grande force au-dessus de nous. C'est vraiment à nous de faire ce travail de transformation. Transformation, mais presque transmutation. Ça va, c'est la suite, hein, ça va ensemble. Pour moi, c'est un travail nécessaire, vital, indispensable, sinon on sera toujours dans cette humanité, même pas adolescente, infantile. C'est un travail personnel avant que ça soit un travail collectif. Il faut qu'on s'élève, il faut qu'on devienne des adultes matures pour pouvoir... juste être dans un monde meilleur, être dans une bonne guidance par rapport aux plus jeunes, voilà, rentrer juste dans une sagesse qui devrait être normale.
Alors parlons de sagesse justement. Ce podcast s'appelle Créez-moi sur parole, parce que la parole a un pouvoir créateur. Alors ce serait quoi en synthèse la parole que tu as envie de clamer haut et fort à ce monde, Armelle ?
Toujours le même, ma brave dame, toujours le même, du style. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience d'incarnation. Mais ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y a plein de bouquins qui le disent. Mais si on part de ce postulat-là, on est à l'envers de nous-mêmes là, en ce moment. Donc rien que nous remettre à l'endroit de nous-mêmes sur ce postulat-là, nous sommes des êtres spirituels et nous faisons... Voilà, ça pose déjà la question, ben alors être spirituel, c'est quoi ? Et donc ça nous met en quête, et notre âme ne demande que ça, d'aller ouvrir cette part immense de soi. Ce potentiel incroyable, et après, on peut être... après, il n'y aura plus qu'à l'incarner. Ce sera beaucoup plus facile. Et on pourra créer, mais la création, c'est le mouvement de la vie, c'est la pulsion de joie, c'est l'élan, c'est le désir, donc... Il est dans le mouvement de la vie. La création est dans le mouvement de la vie. La création, elle est partout. Nous sommes des créations. Nous sommes des créations d'amour de nos propres parents. Il y a une pulsion d'amour, une envie, un élan vital. Plouf, on est arrivé. Cette chaise, tout ce qu'on a créé, tous les mobiliers, tout ce qui est créé ici, pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait un créateur. Pour qu'il n'y ait pas de séparation entre création et créateur, il n'y a pas ni entre créateur et création. Tout ça, c'est lié. Donc... Tant qu'il y aura du mouvement et qu'on retrouve ça, on le pense, c'est créé. Il y a même plus à s'embrader avec ça. Non, il faut remettre à l'endroit. Mais je pense que c'est le job. Nous sommes des êtres spirituels et nous sommes venus sur Terre pour faire une expérience terrestre. Donc en arrivant sur Terre, il faut faire ce chemin de retour. Et c'est une vie est donnée pour ça. Pour retrouver en soi cette capacité spirituelle qu'on a pour vraiment... On a le libre arbitre, on peut décider ce qu'on veut, mais comment savoir si... il faut qu'on puisse
comment connaître l'amour avec un grand A si on n'a pas connu tous les petits amours ou les désamours? Donc il faut bien, quelque part, par l'expérience, apprendre pour pouvoir comparer et ramener ça. Je pense que c'est ce travail d'humanité qui nous est proposé, de descendre dans l'humanité pour la faire évoluer, parce que chacun ensemble, chacun pour soi, mais pour les autres aussi, on va élever une conscience. Et en élevant cette conscience, l'humanité est appelée à évoluer. Donc il faut faire ce chemin-là, de le comprendre, voilà. C'est un chemin de retour, on va dire, pour moi.
Ouais, c'est un joli message, parce que c'est fréquent, quand on parle de développement personnel, d'être taxé d'égoïsme. Alors que moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que faire sa part du chemin, ben, ça permet de redonner au collectif, à cette conscience globale qui s'éveille.
Mais quand on fait ce travail de retour et qu'on se ressouvient petit à petit d'où on vient, il n'y a plus de personnel d'ailleurs. On n'existe pas en tant que... Enfin, l'ego, l'individu égoïste n'existe plus. Il s'explose... Il implose en vol, parce que le sujet n'est plus là, il n'a plus à exister. Puisqu'on n'est pas nous pour nous, ça n'a plus de sens. Quand on ouvre sur une dimension de ce vivant et de cet amour qui coule à flot, là, on est juste calé avec tout ce qui est, quoi. Donc on fait partie du tout, on a envie de servir le tout. Il n'y a plus soi. On n'est plus dans la peur, le doute, l'angoisse existentielle, puisqu'on est ouvert à la confiance du vivant et on reçoit parce qu'on est ouvert. Il suffit, c'est très con, hein. Je me relie à la terre, au ciel, j'ouvre, je reçois, je redonne. C'est ça la spiritualité. Mais c'est très simple, sauf que... Patate, quand on a oublié ça et quand on ne sait pas quoi faire, mais il faut faire tout ce retravail de se souvenir, de retrouver le langage, de retrouver la confiance, de retrouver... Et ça, eh ben, je suis la première, ça n'a pas été facile, hein, de me lâcher dans la confiance. Moi qui crispais tout, qui voulais tout contrôler, oh ben, ça m'a pris 10 ans. 10 ans à faire que ça, hein. Mais quel bonheur! Oui, mais non, c'est vrai qu'au départ, il faut de la volonté, il faut oser, il faut se dire. Enfin voilà, oui, on prend une route, quoi. Il faut la prendre. Mais après, mais quel bonheur! Moi, je changerai pas la route. Hein.
Alors, au sujet de la peur, parce que c'est quand même un sujet central quand on est en chemin, fatalement, on la ressent. En tout cas, moi, je l'ai ressentie. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en faisant ce travail d'amour, cette peur, elle se dissout un peu automatiquement. Mais est-ce que tu aurais quand même un souvenir d'un moment où tu aurais été, toi, dans ce contrôle, dans cette rigidité, dans la peur? Et comment est-ce que tu as fait pour réussir concrètement à en lâcher un petit bout?
Ah mais non, mais la peur, moi, je l'avais même avant que tu rentres, là. Elle est toujours là. C'est-à-dire... C'est simplement là où je me place, à quel niveau je me place. C'est-à-dire que si je me place dans mon mental ou dans ma personnalité, on va dire, je me dis, oh, Nathalie va arriver, et puis comment je vais lui répondre à ses questions, et puis je suis un peu, oh, j'ai jamais su parler, c'est nul, je vais pas y arriver, et puis on m'a toujours dit que j'étais un peu con-con. Alors voilà, donc je vais avoir plein de doutes, de trucs qui vont m'arriver dans la tête, et là je vais avoir peur. Je vais me dire, je n'y arriverai jamais. Je vais croire mon mental, je vais donner raison à cette partie-là, je sais pas, mon père qui me disait « tu n'y arriveras jamais dans la vie », je sais pas quoi, ou X, Y, excuse-moi papa, tu m'as jamais dit ça. Mais donc là, je suis dans la peur. Et donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, immédiatement, je me mets en méditation, je me centre, ben, c'est même presque, je n'ai pas besoin de me mettre devant des bougies, des machins, hein. On peut faire ça dans un métro ou n'importe où. Je me recentre. Et je me pose dans mon cœur, je monte d'un niveau, c'est-à-dire que je ne reste pas dans le mental, ou je descends dans le cœur, parce que si on regarde physiquement, je ne suis pas la tête à l'envers, mais je descends dans le cœur, et là, dans le cœur, ça se calme, ça s'unifie, et je ne suis plus dans la peur. Parce que je me mets dans ce flot. Et donc, j'ai confiance, puisqu'il n'y a que le meilleur qui peut m'être donné là, à ce niveau-là. Et si je dis, je peux, et même si j'ai encore des doutes, je peux dire, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, ça peut paraître con-con, mais ça marche. Donc, tant que ça marche, je le fais.
Alors, concrètement, est-ce que tu aurais un petit truc à donner pour savoir si c'est son mental que l'on écoute ou bien si c'est notre cœur qui nous parle ?
Alors moi, comme je suis une fille qui était vraiment très enfermée dans le mental, j'ai toujours une petite casquette qui s'installe quand je suis dans mon mental. Je me sens un petit peu étouffée au niveau des tempes. Là, ça se resserre, ça fait quand même un petit... Voilà. Donc j'ai un léger mal de crâne, mais léger, quand je suis dans mon mental. Voilà. Donc je le sais quand j'y suis. Voilà, comme ça, merci, merci, je suis dans mon mental. Et quand je suis dans le cœur, ben, j'ai le cœur qui vibre. Donc je le sens, mais c'est vrai que j'ai mis quelques années quand même à écouter le cœur, puis voilà, enfin, ça se fait pas, c'est pas magique, hein, ça se fait pas comme ça en claquant les doigts. Savoir descendre, faire confiance, au début on n'entend rien, on sent rien, puis après ça vient, puis après machin, et puis maintenant ça fait quand même quelques années que je fais ça, bah c'est, ça le fait de plus en plus vite. Et là, pouf, la petite vibration du cœur, oh merci mon petit cœur.
Alors, on a pas mal parlé de la mort. Et là, j'ai envie de te poser une question à ce sujet. Alors, non pas pour être dans l'ego trip de sa propre mort, mais pour aller à l'essentiel. Qu'est-ce que tu as envie de laisser, toi, Armelle, quand tu partiras ?
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de laisser Bah, déjà, je pense que... Moi, ce que je me suis aperçue, c'est que déjà, j'ai pas besoin de mourir avant de laisser. C'est-à-dire que je me suis aperçue qu'en changeant, en changeant de plan, en changeant ma façon d'être et donc de faire, ça a modifié même les gens autour de moi. Ma famille, mes enfants ont perçu ce changement. Et donc, j'ai déjà laissé quelque chose. Le fait même d'avoir changé, ça laisse une trace quelque part. Donc déjà, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un flot d'ondulation qui va plus loin que soi, quand même. Hein. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai... Et s'il y a quelque chose à... Eh bien, peut-être... Peut-être, tiens, elle faisait partie de ces milliers de personnes en l'an 2020, ou j'espère mourir plus tard, 2050, allez, oui, 2050, qui ont œuvré pour faire ressortir le féminin sacré et le masculin sacré, qui ont parlé de la spiritualité, parce que c'est quand même maintenant qu'il faut se bouger les fesses, les gars, les filles, et pour ouvrir ces consciences-là. Donc, elle faisait partie de ces milliers de personnes, voilà.
Alors, pour clôturer... Est-ce que tu as trois ressources qui t'ont aidé, toi particulièrement, et accompagné dans ton cheminement ?
Alors moi, le premier livre, « Femmes qui courent avec les loups », c'est une Bible. Hein. C'est une Bible pour les femmes, ça. De Clarissa Pinkola Este. C'est un livre sur l'archétype de la femme sauvage. C'est justement comment retrouver l'instinct en soi, l'intuition, tout ce qui nous relie au vivant. Donc cette part féminine... que moi, en tout cas, j'avais tellement étouffé que quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu en pleurant tout le temps. C'est-à-dire, je l'ai lu et je l'ai relu, je l'ai stabiloté. Il est stabiloté de partout. Hein. Il y a plus de, on voit plus. Les... Voilà. Donc ça, pour moi, c'était voilà. Donc je le propose toujours si les femmes ne connaissent pas, mais les hommes aussi pourraient s'y reconnaître, hein, je pense, parce que. Ça parle du féminin intérieur. Hein. J'ai un livre aussi, toujours sur le féminin, que j'adore, une femme qui est morte aujourd'hui, mais qui s'appelle Françoise Gange, qui s'appelait Françoise Gange, et qui a écrit une trilogie dont un livre qui s'appelle Les dieux, Avant les dieux, La mère universelle, et qui parle voilà, de la part féminine divine. Alors quand on parle divine, on parle pas du dieu avec une grosse barbe, hein. C'est on parle d'énergie. C'est rien un humain. Voilà. Et puis là, donc, avec ce que j'ai raconté tout à l'heure, j'ai été donc à la Sainte-Baume pour faire la synthèse d'un livre qui s'appelle Marie-Madeleine, l'évangile de Marie-Madeleine par le livre des temps Daniel Meroy-Givaudan et qui
parle de, voilà, ben justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'oubli de notre part spirituelle. Pourquoi on s'est enlisé dans l'oubli et après tous les moteurs de la remontée pour se souvenir et tout ce qu'on peut actionner en nous de qualités qui sont aujourd'hui parfois montrées comme des défauts mais qui sont pourtant des qualités. Donc c'est vraiment, ouais, ce livre c'est vraiment se remettre à l'endroit de soi-même. Donc c'est très intéressant pour ça. Voilà, pour l'instant c'est les trois livres que je trouve intéressants.
Eh bien, voilà de quoi se remettre à l'endroit. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très riche. Alors, Armelle, pour te retrouver ou trouver la maison spirituelle, on fait quoi ?
Alors, la maison spirituelle, elle est au 37 quai de Versailles à Nantes. Alors, le quai de Versailles, c'est juste près du pont Saint-Mihiel. C'est juste en face de l'île de Versailles. Et puis, il y a une page Facebook, donc la maison spirituelle, tout simplement, avec tout ce qui s'y passe, voilà. Et j'ouvre aujourd'hui hors vacances scolaires, mais les mercredis de 11h à 16h, justement l'espace, qui est un espace très tranquille, un lieu sans bruit au cœur de la ville, justement pour que ça soit proposé en temps de ressources, que les gens puissent venir méditer, lire. Il y a beaucoup de livres, hein, j'en ai cité trois, mais il y en a plein d'autres. Des jeux de cartes, enfin des oracles, pour réfléchir, ou juste pour être bien et dormir dans un coin. Hein, les gens font ce qu'ils veulent. Mais voilà, c'est un moment pour soi, seul, sans blabla, sans vraiment silence. Voilà, déjà, ça peut être déjà une première étape pour découvrir la maison spirituelle.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et c'est vrai que c'est un lieu que j'appellerais magique, qui déjà touche et émerveille rien qu'en passant la porte. Alors, je vous y invite chaleureusement. Merci infiniment, Armelle. Merci pour ton accueil, pour la profondeur et la générosité de tes propos. Et je te dis à bientôt.
Merci à toi, Nathalie, de recueillir tout ça. Merci. À bientôt.
Merci infiniment à Armelle d'avoir pris le temps de me recevoir à la Maison Spirituelle pour ce troisième épisode de Créez-moi sur parole. Je ne pouvais franchement rêver mieux en termes d'alignement entre une vision, un lieu et sa créatrice. Comme elle le dit si bien, il n'y a pas de distinction entre le créateur et sa création. C'était une nouvelle fois un moment privilégié et j'espère qu'il vous aura inspiré à oser aller à la rencontre de vous-même, d'oser plonger dans votre féminin comme dans votre masculin, d'en faire des alliés. Si vous avez aimé cet épisode, l'idée c'est de le partager ou mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Osons aller à la rencontre de nous-mêmes, osons l'ambition de nos aspirations, créons et prenons notre pied.